Bonjour auditrices et auditeurs fidèles à cette émission. Merci de vous câbler sur la fréquence de la nouvelle génération. Michel Tomega sur la mise en onde. Jérôme Akucha est à la mise en ligne. Nous saluons nos radios partenaires qui reprennent cette émission, notamment Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapaon, les radios en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. L'émission est également diffusée sur les canaux digitaux de Canal FM. Sur le plateau, pour le débat de ce jour, Ambroisine Memédé de l'agence de presse Savoir News. Bonjour Ambroisine.
Bonjour Saïbou, chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite une bonne année, santé, protection divine, succès dans vos activités. Et tout cela, moi je vous le souhaite, à vous de l'intégrer et de mettre tout en œuvre pour que ça soit une réalité dans votre vie. Je profite pour dire beaucoup de courage, force et succès à toutes les femmes des marchés qui ont tout perdu. Et c'est une joie de savoir qu'elles n'ont pas baissé les bras, elles ont continué à garder le courage.
Bonne année à vous également.
Merci.
Eric Johnson du journal L'Union. Bonjour Eric.
Bonjour Saïbou, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. C'est de coutume, nous profitons de cette occasion pour souhaiter nos voeux les meilleurs pour l'ensemble des populations togolaises et mondiales. Et nous souhaitons beaucoup de courage à ceux qui se retrouvent dans des situations un peu difficiles, soit dans les prisons, soit dans les hôpitaux. Et nous souhaitons que cette année soit une année de délivrance pour nous tous.
D'accord. Isidore Akolor du journal Actu Express. Bonjour Isidore.
Bonjour Fousséni, bonjour chers confrères, consoeurs ici présents. Et bonne heureuse année à toutes et à tous.
Merci d'être là. Nous sommes ravis de vous retrouver en vie et en forme dans cette nouvelle année. Celui que nous n'aurons plus désormais l'occasion ni de voir ni d'entendre, c'est bien l'ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Podro. Car nous avons appris il y a quelques heures, avec grande tristesse, son décès. Monsieur Monseigneur Podro avait fêté récemment ses 94 ans. Alors, Ambroisine Memédé, voilà la nouvelle qui nous est tombée dessus depuis hier.
Eh bien, c'est vraiment déplorable. Hein? C'est déplorable. C'est une figure emblématique de la scène religieuse et aussi politique du Togo depuis la conférence nationale. C'est déplorable. Savoir qu'une telle personne d'un tel acabit finit ses jours en exil, c'est vraiment touchant. Et tout ce que moi je souhaite, c'est qu'il repose en paix, et toutes nos condoléances à la famille éplorée, à la grande famille politique du Togo et à toutes les congrégations religieuses, surtout catholiques du pays. Vivement qu'il repose en paix.
Père son âme. Les ces deux dernières années, nous avons entendu beaucoup de choses concernant sa vie à l'extérieur. Finalement, Monseigneur Podro meurt loin de sa terre natale. Éric Johnson.
Oui, c'est triste, cette nouvelle qui nous est tombée dessus, tel un couperet. Ce jour, je crois que nous sommes tous touchés par le décès du prélat, celui-là même pour qui nous tous nous avions souhaité qu'il rentre au pays avant de nous quitter. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Il est resté loin des siens. Et il est parti. Monseigneur Podro, oui, nous en parlerons pendant des années encore, parce que c'est un prélat qui a marqué la vie socio-politique et religieuse de notre pays. On se rappelle de sa gestion de la Conférence nationale souveraine, sa gestion du Haut Conseil de la République qui servait de parlement après la conférence nationale souveraine. et au-delà, il a continué par mener une lutte politique pour que, tout simplement, tout aille au mieux sur la terre de nos aïeux. Malheureusement, il vient de nous quitter à plus de 94 ans, paix à son âme, et nous souhaiterions vivement qu'un hommage mérité et national soit quand même organisé à la mémoire de ce grand homme qui vient de nous lâcher.
D'accord. Monseigneur Podrou, vous l'avez dit, était un grand homme de Dieu, mais il était aussi très connu sur la scène politique pour avoir occupé le poste de président du HCR au Conseil de la République, le Parlement de la transition de l'époque, dans les années 90, et pour avoir aussi soutenu en 2020 la candidature de Monseigneur Agbeyome Kodjo.
Le premier ministre,
l'ancien premier ministre Agbeyome Kodjo. Voilà, merci. Alors, Isidore Akolor, que retenez-vous d'autre du personnage?
Oh, beaucoup de choses depuis son intronisation. Qu'en appelle-t-on?
Qui a été tumultueuse.
Oui, tumultueuse. Et il a fallu des stratagèmes pour pouvoir l'ordonner à l'église Saint-Augustin d'Amoutivé. C'est quelqu'un qui a suivi les sillages de Monseigneur Takpa. C'est un homme de conviction. S'il croit quelque chose, rien ne va le faire bouger de sa conviction. C'est un homme de conviction et un prélat qui a respecté le vœu de célibat et de chasteté. C'est des choses que je peux retenir.
Mais comme tous les
peuples. C'est rare. C'est un homme de conviction. C'est un monument. Si tu as l'opportunité de discuter avec lui, bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec la vieillesse, ça a un peu perdu de sa veine. Mais c'est quelqu'un, quand il te parle, il n'a pas besoin de te convaincre. Paix à son âme. La vraie question que nous posons, est-ce que son corps va retrouver
sa maison?
Sa maison, non. Qu'on appelle la terre natale, la terre de nos aïeux.
C'est ce que j'ai appelé sa maison.
Oui, quelqu'un qui a. Il a clairement dit que il ne viendra pas, il ne retournera pas au pays si rien ne change. Si Fonia Singh est toujours là, est-ce que c'est son corps maintenant qu'on va ramener? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et je crois que l'Église catholique va s'investir. En synergie avec sa famille biologique pour voir dans quelle mesure rapatrier son corps.
Ça dépendra aussi de sa dernière volonté. On ne sait pas ce qu'il a dit avant de mourir.
Voilà. C'est compliqué pour nous.
D'accord. Alors merci, c'est cet hommage-là que nous avons voulu rendre à Monseigneur Philippe Fanoko Podrou, décédé hier. Nous passons à un autre sujet. Nous parlons culture tous les mardis. Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendant, JMK, titre l'Union, célébrer la plénitude des cultures le 24 janvier. Alors, Eric Johnson, la délégation permanente du Togo auprès de l'UNESCO est associée à cet événement. De quoi s'agit-il concrètement?
Vous n'êtes pas sans savoir que cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, JMCA, a été initiée par un Togolais. Il s'agit de... John Haïté Dosavi, avec son association qui a beaucoup lutté dans les sillages de l'UNESCO pour qu'une journée soit quand même dédiée à la culture africaine. Et donc, chaque année, il y a beaucoup de villes qui sont des villes créatrices du monde de l'UNESCO. Au total, on a plus de 350 villes. L'année dernière, il y a 15 villes créatrices du monde qui ont organisé des événements en collaboration avec des villes africaines, des manifestations qui essaient de porter la culture africaine dans toute sa plénitude. D'accord. Quand on parle de culture, c'est tous les genres culturels. Cette année, le 23 janvier prochain, mais il faut dire que la JMCA est organisée tous les 24 du mois de janvier. Mais cette année, c'est le 23 janvier que la délégation de l'UNESCO au Togo, en collaboration avec l'UNESCO même et toujours le RAPEC de notre compatriote John Haïti et Dosavi, et qui va organiser une journée dédiée à la culture africaine à Paris, au siège de l'UNESCO à Paris. Alors, au cours de cette journée-là, il y aura des conférences, des panels, c'est pour toute une journée, et après, il y aura également un moment festif dans la soirée pour permettre aux hommes de culture d'échanger, de partager leur vision de la culture africaine. Et donc, c'est cette manifestation-là qui est organisée le 23 janvier au siège de l'UNESCO à Paris par la délégation togolaise de l'UNESCO.
D'accord, merci pour cette information. Savoir News évoque le Festival des divinités noires au Togo, la 9e édition officiellement lancée à Anéhor. Plusieurs innovations du 12 au 14 janvier, lit-on sur le site de l'agence de presse. Ambroisine Memédé, ce festival revient après 10 ans d'absence.
Oui, 10 ans des suites des épidémies que nous avons connues, Ebola et Covid-19. Il fallait prendre le temps de repenser, de bien structurer la chose, et ça revient en force après ces 10 ans sous le thème harmonie des âmes, célébration des racines, convergence des cultures. C'est un festival qui promeut le patrimoine africain dans toute sa diversité, dans toute sa dimension. Et cette 9e édition qui se tiendra à Néro et à Glidji a été lancée en présence du maire de la commune des Lacs. Il y aura comme pays invité l'Inde et la ville invitée à Abomey, donc le roi Sa Majesté Dewe Ndegbehanzin sera présent avec sa suite. Il y aura une dégustation des mets d'Anéro et aussi d'Abomey. Donc c'est tout un brassage culturel. Et le programme, un programme bien concocté avec des démonstrations de danse, des danses royales, les divinités, les 41 divinités Guémina. Les danses des couvents d'Abomey, vous aurez des démonstrations peut-être de Zinli, des mets et d'ici et aussi d'Abomey et qui seront dégustés. Et le programme est à consulter sur l'agence Savoir News, mais déjà je vous dis qu'il y aura une grande messe du Fa, donc les consultations du Fa que vous connaissez peut-être bien. Et il y aura un défilé de couvents Guémina, défilé aussi du côté des divinités et des prestations au niveau d'Abomey, des prestations de Kondona. Cela, on a eu à parler de ça lors de l'annonce de l'événement. Il y aura un concert party de Guadamassi. Donc, c'est un programme vraiment alléchant et vaste, riche en chorégraphie également, une chorégraphie sur Béanzin, l'immortel, un rêve inachevé. Donc, tout le programme est à consulter.
D'accord. Leader à Color, ce festival aura certainement des retombées sur d'abord Anéro et puis sur le pays, n'est-ce pas?
Vivement, vivement que ça puisse reprendre après quelques années d'hibernation dues à certains problèmes d'organisation. et d'orientation même de ces festivals. J'ai toujours, à chaque occasion, je dis que nous étions les tout premiers à accompagner ce festival. Et la toute première conférence de presse qui avait eu lieu, c'était à Nukafu. Derrière, il y a une maison d'un Européen, derrière la station Total. Et qu'on appelle-t-on, le promoteur, c'est un grand frère à moi. Mmh. Bon, mais le concept, jusqu'à présent, je n'arrive pas à cerner le contour du concept. Mmh. Et bon, vivement, et d'après ce que Ambrosine a décliné, je crois qu'il y a une nouvelle orientation d'Acofin. C'est peut-être pour célébrer les divinités noires et non et venir les exposer ou donner l'impression que c'est une festivité ou, comment dirais-je, culturelle. Mm. Ce n'est pas possible parce que les divinités noires, les divinités africaines ne font pas des démonstrations. Donc, s'il y a une nouvelle orientation, tant mieux.
D'accord.
Ambrosine, quand même, quand nous parlons de la culture et des rituels, il y a un petit chevauchement quelque part. Il y a un petit chevauchement quand on parle de consultation de phage. Je pense que il y a ce volet-là des couvents qu'on ne connaît pas trop et aussi ce qui peut être exposé. Mmh. Et quand je parle des danses, les danses viennent des couvents de façon en général. Donc si les danseuses des couvents sortent pour donner, pour faire quelques démonstrations, je pense que c'est beaucoup plus le volet culturel de la chose, mais sans occulter celui de culturel. Voilà, je pense. Donc,
d'accord.
Et il ne faut pas oublier qu'au cours de ce festival-là, quand bien même ce n'est pas forcément le côté rituel qui est exposé, il arrive des moments où les femmes et hommes des couvents se mettent en transe parce que là, il y a les dieux qui interviennent à travers, parce que il y a certains chants, certaines chansons qui sont dédiées à certains dieux. Mmh. Et donc, quand on les met, ceux qui représentent ces dieux-là se mettent forcément en transe devant tout le monde.
Je ne sais pas qu'il y aurait des transes.
En principe,
Isidore. Ça arrive.
En principe, oui, c'est ça. À Coffin, c'était ça. C'est un sifflet que de chez nous. Oui, à Coffin, c'est le corps qui est un sifflet et qui sort rarement, surtout quand des grandes occasions, quand un chef traditionnel venait, c'est sûrement que ces choses-là sortent.
D'accord. Il y a également des tambours qui ne sortent que qu'à des occasions rares. Mmh.
D'accord. Donc, voilà. Que je voulais. Vous voyez le carnaval de Rio de Janeiro.
Mmh. Oui.
Bon. Vous ne pouvez pas comparer ça avec Egun.
Non, pas du tout.
Mais ils s'habillent de la même manière. Mmh. Est-ce que vous voyez la différence?
C'est dans la pratique.
Oui. Oui. Dans la pratique. D'accord.
En tout cas, ce qui pourra être exposé sera exposé.
Voilà.
Ce qui est du couvent sera dans les couvents.
Merci à vous tous. Autre événement culturel de cette édition, c'est le FESTIX, Festival international du cheval de Sokodé, qui a lieu du 8 au 14 janvier 2024 à Sokodé. Le journal L'Union en a fait cas la semaine dernière. Ce premier rendez-vous de Festix se déroule autour du thème le cheval, expression du pouvoir et de la puissance en pays thème. Mmh. Eric Johnson, pouvez-vous nous en dire davantage?
Excuse-moi, mais t'es côté colis?
Oui.
Ah oui, très bien.
Non, il a été.
Voilà. Non, c'est dire que pour tout ce mois de janvier, le peuple thème sera à l'honneur.
D'accord.
À côté de la fête traditionnelle à Dossa Gadao, il y aura beaucoup de manifestations tout comme une foire, la foire d'Iphésie qui est à sa troisième édition, je crois bien. Et il y a également la première édition justement de ce festival Festix et qui a déjà commencé depuis hier.
D'accord.
Et pour cette année, pour cette première édition, le Bénin représenté par la ville de Djougou,
oui.
Qui sera la ville invitée parce que au Bénin également il y a un festival d'équitation.
Oui.
Et donc c'est ce festival là pour exprimer quand même le pouvoir du cheval au sein de ce peuple-là. Et donc, l'organisatrice ou la promotrice de ce festif a donné toute l'importance de cette activité dans la valorisation du patrimoine culturel thème. Et donc, au cours de cet événement-là, il y aura des masterclass sur l'équitation, la photographie d'art, et une conférence débat, des compétitions équestres, et justement, c'est l'apothéose de ce festival-là, des danses folkloriques, des sensibilisations, des consultations foraines, des projections de films et bien d'autres surprises. Je pense que nous sommes en train de découvrir, une fois encore, le peuple thème dans tout ce qu'il porte comme patrimoine culturel. Et c'est très important de soutenir de telles
initiatives-là
pour montrer, puisqu'il y aura effectivement des gens qui vont arriver d'un peu partout. Il y a des Togolais de la diaspora qui vont effectivement venir au pays pour se redécouvrir, parce qu'il y en a qui ont quitté le pays il y a très longtemps, et qui perdent parfois leur culture. Et donc, c'est une très belle initiative, à mon avis, que nous devons soutenir. De même que tout ce qui est organisé autour de cette fête traditionnelle, je parlais tantôt de cette foire d'Iphésie. Une foire où vous allez découvrir des choses, parce qu'il y a un programme aussi alléchant que le programme Akoufin à Nairobi.
D'accord, merci Eric. Isidore Akolo.
La première fois que j'ai eu à assister à ce genre d'événement, c'est toujours ça. C'était Bassirou Ayeva qui était l'un des initiateurs. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert. C'est pas si c'est ça qui continue jusqu'à
présent. Non, c'est
carrément une autre initiative.
C'est une autre initiative.
D'accord.
Non,
c'est bon, d'accord. Alors, oui, Ambroisine.
Moi, ça fait partie de nos traditions. On sait à peu près ce que représente le cheval à un pays thème. C'est aussi un prestige. Moi, j'ai eu j'ai assisté une fois à une partie. Dans le nord, j'étais avec Moussouloumi Boukari et j'ai vu les chevaux danser. C'est vraiment impressionnant. Déjà à la Gani qui en septembre, souvent au Bénin, il y a des chevaux qui viennent. Les chevaux, la façon dont les chevaux sont ornés, c'est vraiment impressionnant. Ça montre tout le prestige. Mais Fousseni, à toi de nous en dire un peu plus.
C'est pour ça que je voulais poser la question.
Permettre aussi aux gens de comprendre un petit peu ce que ça représente. Moi, je vois tout un prestige. Et ces chevaux sont tellement dressés de sorte qu'ils savent quel pas poser avant l'autre. Il y a des pas de danse. Il y a une façon de marcher, de démontrer le prestige. Et ça montre aussi le rang de celui qui est hissé sur le cheval.
Tout un mouvement d'ensemble. Je me rappelle.
Vraiment. Moi, j'ai assisté à cela. Bon, j'ai fait une bonne partie quand même au nord. Et donc, ça fait que ce sont des moments qu'on n'aime pas du tout rater.
D'accord. D'accord. Merci à vous tous. Nous allons retourner à Anéro. Dans l'apparition du journal Actu Express de ce mardi, il est titré « Réfifi au palais royal de Gligi. vers un conflit ouvert entre la régence et le cabinet, s'interroge le journal. Isidore Aklor, qu'est-ce qui se passe au palais royal de Gligi?
Non, tout a commencé au lendemain du décès de feu d'Infiogan, Sédégué, qui avait mis en place un cabinet pour l'aider dans la gestion du royaume. Jusqu'à la désignation du régent, le courant ne passait pas entre le cabinet et les autres. Bon, aujourd'hui, la messe de requiem du cabinet a été dite par une décision d'interdiction des activités du cabinet que nous avons eue. Et nous avons traité ça dans le journal. Et en retour, bon, le cabinet aussi a réagi par une notification que le régent n'a pas qualité à dissoudre le cabinet et s'est appuyé sur des textes de loi qui doivent régir le royaume de Gligi. Bon, toutes les tentatives aujourd'hui sont vaines. Et ne soyez pas étonnés que, bon, à cette allure, la 361e édition de PPP risque encore de créer des problèmes. Et vous en souvenez, la 360e édition, c'est ces cripocos qui ont amené à des bagarres lors des rituels que les Lawson organisaient. Donc voilà, le problème n'est pas encore réglé. Et comme nous sommes natifs du milieu, nous voulons sonner l'alerte pour que, bon, c'est pas qui va régler les problèmes pour que la paix revienne. Il faut enterrer la rage de guerre.
D'accord. Éric Johnson, vivement que cette situation soit résolue rapidement.
Oui, je crois que nous avons un problème de leadership aujourd'hui dans nos communautés. Et ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Et on ne comprend pas comment un cabinet du roi disons les autres sujets ne peuvent pas s'entendre sur le minimum pour pouvoir faire développer la communauté. Est-ce que tous ces gens-là aujourd'hui qui se battent, est-ce qu'ils ont à l'idée le développement de leur communauté? Je pense que c'est cela qui devrait normalement guider tout un chacun pour que les gens puissent s'asseoir et discuter et trouver toujours un compromis. Vous savez, les gens ont tendance à montrer, enfin, quand ils sont un peu à l'aise, à montrer leur supériorité par rapport aux autres, alors que vous êtes tous égaux devant votre royaume. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si l'on n'y prend pas garde, ce royaume-là va partir en lambeaux. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les gens se battent quand même pour garder ce qui est essentiel pour leur communauté. Nous disons qu'il y a un sous-emploi dans la communauté. Mais nous devons réfléchir à ça. Mais pendant que les gens se battent, qui va régler ce problème d'emploi, par exemple, pour les jeunes? Les gens étudient dans le milieu. Ils n'arrivent plus à faire des études supérieures parce que nous n'avons pas une université dans la région. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est à ça aujourd'hui qu'il faut véritablement penser, au lieu de rester dans ce carcan de leadership là qui crée des problèmes énormes dans nos communautés. Surtout ce qui se passe à Gligi, depuis des années on est en train de suivre ça. Ce n'est pas seulement à Gligi, dans les autres communautés de la préfecture de Lac aussi, il y a ces problèmes au niveau des chefferies et tout ça. Mais il faut que les gens aient en tête le développement communautaire. Mmh. C'est ça qui est important. D'accord. Personne ne le fera à notre place. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas de bonnes décisions, ce n'est pas l'autorité qui va s'impliquer aujourd'hui dans ce truc-là. On va dire l'autorité a pris parti pour tel ou tel autre. Mmh. Non. Il faut que les fils et filles de cette communauté-là s'asseyent pour discuter et trouver un terrain d'entente. Mmh, cela, il va du développement de notre communauté. Mmh,
d'accord. Alors, merci à vous tous. Nous passons à un autre sujet. Crise politique au Niger. Les médiateurs Fornia Singbe du Togo et Julius Mada Bio de la Sierra Leone, désignés par la CEDEAO, obtiennent la libération de Salem Bazoum, fils du président déchu Mohamed Bazoum. Il s'agit d'un geste humanitaire de la part du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, selon les médiateurs. Salem est détenu et inculpé pour complot visant à porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État. Alors, Amkroazine Memede, n'est-ce pas une nouvelle victoire diplomatique pour le chef de l'État togolais?
Bien sûr, victoire diplomatique, victoire d'étape pour tout le Togo, pour la diplomatie nationale. Le Togo a fait ses preuves en matière de médiation, facilitation, tout ce que vous savez. Ce n'est plus la peine de rappeler tout ce qui a été fait. Et la volonté manifeste du Togo quand même a conservé, a maintenu la paix et les voies pacifiques de règlement, de résolution des conflits, des mésententes et tout. Et donc, c'est un grand pas. Qui a été franchi, qui vient d'être franchi. La question, c'est de savoir, en tout cas, on attend vivement la libération du président Bazoum. Si c'est que c'est toute la famille, pratiquement, il y a également son épouse, mais si le président est libéré, je pense que la femme également sera libérée. Et donc, victoire d'étape, mais grande victoire quand même, même si la Sierra Leone et la Sierra Leone a aussi joué sa partition, le Togo a posé un grand pas, a pesé de tout son poids pour cette libération. Et à l'allure où vont les choses, si déjà on a eu la libération de Salem, je pense que on peut déjà commencer par se frotter les mains doucement en attendant la libération du président de l'Est, Bazoum. Président Bazoum. Mmh. Et donc, je viens de le dire, c'est une victoire quand même.
D'accord. Isidore Akolor, cette libération de Salem Bazoum peut-elle être considérée comme un signe d'apaisement donné par les autorités du CNSP aux autorités de la CEDEAO?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je peux me tromper. Mais la grande question que je me pose, qu'est-ce que le fils d'un dictateur ou d'un président a à voir et de sa femme a à voir dans la gestion d'un pays? Qu'est-ce qu'ils ont eu qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement? Moi, je n'en vois pas. C'est l'enfant et sa femme qui ont été prises en otage. On peut tout reprocher à Bazoum, l'ancien président, mais pourquoi, comment dirais-je, kidnapper ou prendre en otage sa femme et son enfant? Donc, félicitations à la diplomatie togolaise et sierra-leonaise d'avoir obtenu la libération de Bazoum fils. Il reste Bazoum même à libérer et sa femme. Mais ce qui revient en esprit pour tous les Togolais, quand on félicite les efforts de Fornia Singbe à l'international, à l'extérieur, pour régler des crises, alors que même nous sommes sur une braise, qu'est-ce qu'il attend pour régler les problèmes en interne aussi? C'est tout ce que les Togolais, qui, soi-disant, l'ont voté, aujourd'hui, c'est lui qui gère le pays. Mais il ne peut pas laisser couver les crises et aller éteindre les feux à l'extérieur. Vivement, qu'il puisse régler aussi les problèmes en interne.
D'accord. Alors, Eric Johnson, Salem Bazoum serait accueilli à Lomé. Bon, c'est une information qui reste à confirmer. Mais est-ce un signe qu'on s'achemine vers la libération imminente de l'ancien président Bazoum?
Alors, je pense personnellement que le régime actuel au Niger est en train d'avancer ses pions en se disant que pour quand même apaiser un peu le cœur, il faut quand même aussi montrer des signes de compréhension, je peux dire. Si aujourd'hui le fils de président Bazoum est libéré, Isidore l'a dit tantôt, lorsque vous êtes dans une situation de crise, est-il logique de garder les familles proches du président avec qui vous avez problème? C'est-à-dire que on a pris Bazoum et on prend sa famille et ses proches, et ça n'a rien de logique. Je dis tout simplement que le poids des sanctions de la CEDEAO aussi, ce poids-là agit sur ce régime. Et je crois que si ce régime-là veut que la CEDEAO enlève toutes ces sanctions, il faut aller au-delà de la libération du fils. Tout ce qu'on demande aujourd'hui à ce régime-là, c'est la libération du président Bazoum.
D'accord.
Alors, je crois que si ce pas-là est également franchi, donc le Niger, après quand même toutes les discussions qu'il y a eu, et on est fixé sur la période de transition, même si on dit que c'est une conférence nationale qui va déterminer le temps de transition et tout ça, je crois qu'on sait quand même que cette transition-là ne va pas dépasser 3 ans. C'est déjà également un grand pas. Je dis, ce régime-là est en train de poser quand même des actes pour que les sanctions de la CEDEAO, qui pèsent énormément sur les populations nigériennes, soient levées.
Pas seulement nigériennes, de la sous-région.
Oui,
de la sous-région.
Mais en premier lieu, c'est le peuple nigérien qui souffre énormément. En premier lieu. Malgré tout ce que les gens disent, oui, le Mali s'en sort bien, on a eu augmentation de salaire, on ne peut pas faire autrement. Lorsque des fonds de ces pays-là sont gelés, et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne décaisse plus, mais il faut imaginer toute la souffrance de ces populations-là. Je pense qu'il faut faire quelque chose si on veut véritablement que ces populations-là sortent de leur état de pauvreté, d'extrême pauvreté actuelle.
D'accord. Alors, nous revenons sur un article dans Actu Express. Isidore Akolor, alerte arnaque. Vous donnez un numéro à éviter. Je ne vais pas citer le numéro.
Non, moi je vais le citer.
c'est
le 90.
C'est toi qui dénonce.
78 72 50. Je répète encore. 90 78 72 50. Au fait, c'était samedi que notre réaction a été saisie par un abonné de Togocom, qui a vu son agence se volatiliser à l'intervalle de quelques minutes. Bon, derrière ce numéro se cache une dame qui vous appelle en pleine détresse, vous informant que par mégarde, elle vous a transféré
une somme
et vous prie de le renvoyer. Mais vous ne pouvez pas faire ça sans consulter votre compte. Sans voir si au moins il y a un
effectivement,
message.
Voilà. Si effectivement, il y a, vous avez reçu un transfert.
Mais la victime dit qu'il n'a pas reçu de transfert. Aucune notification de transfert d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle la dame, dit que non, il n'y a aucune notification. Il dit, ah bon? Ah, priez, vérifiez, consultez votre compte, Timoni. Peut-être que le message tarde à être notifié. L'abonné consulte son compte et voit que bon, il n'y a aucune augmentation de son solde. Et naïvement, a donné le montant du solde. Quelques minutes, les minutes qui ont suivi, le montant qu'elle avait déclaré avoir envoyé, 7700 francs, est venu automatiquement sur son compte. Quelques minutes, son compte a été vidé. La question, c'est de se poser, où est-ce qu'on a trouvé le code secret? Et après, bon, la victime l'appelle, dit, madame, j'ai constaté des mouvements suspects sur mon compte suite à nos échanges et je vois que j'ai reçu des messages que vous m'avez transférés 7500 et après vous avez encore retiré. Et c'est là où le ton a changé. Elle est devenue virulente, dit que vous êtes escroc, patati patata. Voilà la situation. Donc, c'est une alerte que nous lançons. Faut que vous, si ceci d'aventure, ce numéro vous appelait, de ne jamais décrocher.
Pas seulement ce numéro, Ambroisine, c'est un phénomène courant. Les citoyens se plaignent tout le temps des numéros qui vous appellent. Et on se demande à qui appartiennent ces numéros.
Oui, c'est la question qu'on se pose. Parfois, on vous dit que vous avez quelqu'un à l'hôpital ou que vous avez gagné. Moi, personnellement, c'était pour un gain où je n'ai pas joué. On me dit que j'ai gagné quelque chose. Bon, je n'ai pas fait attention. Une autre fois, c'est quelqu'un qui insistait. Je lui ai dit ben, de ne plus m'écrire. Il a insisté. J'ai dit, si vous répondez même à cette intervention que je vous fais, là, vous serez attrapé par la police. Et ça a mis fin à tout ça. Et donc, moi, j'appelle les gens à la prudence. Et nos compagnies de téléphonie mobile envoient également des messages. Récemment, il y a eu un message sur fake news et qui appelait également, la compagnie appelait également, c'est la compagnie Togocom qui appelait à la prudence, et de faire attention. Il faut aussi faire des recoupements quand vous avez des inquiétudes, des doutes par rapport à un message qui vous est envoyé. Je pense qu'il faut être de plus en plus prudent face à ces messages-là.
D'accord. Et Eric, oui. Tu veux ajouter?
Oui, je pense que tout le monde, tous les abonnés de Togo Cellulaire et de Move ont quand même reçu des appels, des messages, que ce soit message SMS ou message WhatsApp de ces anarchas-là. Tout ce que nous pourrons demander aujourd'hui, parce que quand cette histoire-là a commencé avec ce numéro 90 78 72 50, on a été alerté. Et on nous a dit clairement de ne pas réagir par rapport au message que ce numéro-là envoie et aux appels. Et donc, je crois que si les citoyens doivent être protégés, c'est par les compagnies de téléphonie mobile. Elles doivent faire en sorte que aujourd'hui tout le monde presque est identifié. Et donc, on ne comprend pas pourquoi lorsqu'il y a ces appels-là incessants ou ces messages-là qui arrivent à tout moment et qu'on signale, on n'arrive pas à mettre la main directement sur ces gens-là. Soit on protège les citoyens, les clients, ou soit on laisse les citoyens se faire anarcher. Et donc, moi, je n'appelle pas forcément uniquement aux sociétés de téléphonie mobile, mais également à l'ARCEP, qui est la société étatique qui contrôle ces sociétés de téléphonie mobile. Donc, il faut faire quelque chose pour protéger les citoyens. Le montant qui a été soustrait à ce compatriote dont parle Isidore là, ce montant-là, cet argent-là ne va plus lui revenir. Et pourquoi ? Alors qu'il y a un numéro hein, qu'on connaît. On signale ce numéro, mais le propriétaire de ce numéro-là n'est pas arrêté pour restituer les fonds. C'est là où il y a un véritable problème. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Ambroisine se demandait comment les gens arrivent à avoir les codes. Mais avec l'intelligence artificielle, il suffit de faire une conversation ou d'échanger des messages avec votre interlocuteur. C'est il fini. Peut avoir accès à votre code, à tout ce que vous avez sur votre téléphone. D'accord. Et donc, il faut qu'on soit vraiment vigilant et il faut que l'ARCEP nous aide à régler ce problème-là. Si aujourd'hui, on peut encore laisser des gens qui ne sont pas identifiés et, à avoir des numéros et à les utiliser, je crois que ce problème-là, c'est au niveau des compagnies de téléphonie mobile.
D'accord, Isidore.
Oui, au-delà de l'ARCEP, je ne sais pas si c'est possible que l'ANSI aussi puisse s'impliquer. Hein. L'Agence nationale de la cyber.
Non, moi, c'est le rôle de combattre la cybercriminalité.
Oui, c'est dans leur prérogative ou bien faudrait-il les saisir. Je ne connais pas la procédure.
Il faut qu'on saisisse l'ANSI d'abord sur une situation. Et donc, l'ANSI ne peut pas intervenir directement ici. Mais vous savez que quand vous êtes anarché, vous pourrez porter plainte contre X et là, on demande aux sociétés de téléphonie mobile de donner l'identité de ces gens-là qui ont ces numéros-là. Et donc, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'à la fin, toi qui es victime, tu n'as plus les résultats de ces enquêtes. Tu ne sais plus ce qui s'est passé entre-temps, alors que c'est toi qui as porté plainte. On va porter plainte au niveau de la police, de la gendarmerie, mais au bout du rouleau, ça se traite entre les forces d'ordre et de sécurité et les sociétés de téléphonie mobile. Toi-même, la victime, tu n'en sais plus rien, tu ne sais plus ce qu'on a fait de ta plainte.
D'accord, Isidore.
Mais il y a péril à la demeure parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus en sécurité et dans les transactions monétiques via les téléphones mobiles. Alors que.
Outil de travail aujourd'hui.
Oui, c'est un outil de travail. Non, c'est un outil de travail, mais nous voulons, nous, et le Togo veut se positionner comme un hub.
Dans le domaine,
avec MCC et toute cette histoire-là. Mais alors là. On nous pousse à ne plus avoir l'argent sur nous, mais de l'avoir de façon numérique. Mais si on va nous dévaliser ou nous piller de cette façon,
voilà, il n'y a pas d'assurance. Il
faut assurer. Il faut rassurer les citoyens pour aller vers là. On parle de la numérisation, mais s'il y a cette chose là, mais on va continuer à faire la thésaurisation, garder l'argent chez soi.
D'accord. Merci à vous tous. Nous abordons un sujet paru dans le journal L'Union de ce mardi. La lutte contre les pesticides chimiques néfastes se poursuit. Le journal titre nous présente donc ce mardi les résultats d'une étude sur l'impact de ces produits sur l'agriculture. Étude pilote sur les pesticides chimiques en agriculture, l'étendue des dégâts notés d'Ambassar et moyen mono, titre le journal L'Union. Éric Yonson.
Oui, il faut le souligner, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam sur le commerce international des produits chimiques et de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le FAO, a initié, formulé le projet PESTA, c'est-à-dire que c'est un projet et qui veut porter à l'échelle nationale les études sur l'utilisation des pesticides chimiques dans les pratiques agricoles au Togo. Mmh. Et il faut noter que en 2021 et 2022, il y a eu une étude pilote dans les préfectures de Moyen Mono et de Bassar. Et donc, ces études pilotes-là ont montré des dégâts énormes. Mmh. Et donc, si on veut faire cette étude-là à l'échelle nationale, je crois que véritablement, si on arrive à le faire et qu'on arrive à mettre quand même un frein à l'utilisation anarchique de ces pesticides-là, nous pourrons nous en sortir. Mais ce qu'on a remarqué en premier lieu, c'est l'appauvrissement des sols. Les sols sont totalement appauvris. Il n'y a plus de matière nutritionnelle pour les plantes. Il n'y a plus de minéraux dans les sols où ces pesticides-là ont été très utilisés. De l'autre côté, on a constaté aussi directement des effets néfastes sur les consommateurs des produits issus de ces sols où on a utilisé ces pesticides-là. Mmh. On est allé jusqu'à découvrir des cancers auprès de ces consommateurs-là. Mmh. Il y a des maladies vraiment cliniques comme la toux et des démangeaisons, beaucoup de choses qu'on a eu à découvrir à travers cette étude-là. Et donc, l'objectif principal du ministère, c'est de voir dans quelle mesure on peut mettre fin à l'utilisation de ces pesticides-là dans l'agriculture de notre pays. C'est vraiment important parce que même parfois, vous savez, quand vous voyez des cours d'eau où les gens vont aller chercher de l'eau de consommation, on utilise ces pesticides-là pour tuer les herbes qui jonchent ces cours d'eau-là. Voilà. Et directement consommés par les populations.
Quand il pleut, ça se déverse dans la rivière.
Dans la rivière, un peu partout. Et donc, bonjour les dégâts. Et donc je crois que c'est une étude très importante qui vient d'être lancée déjà en décembre. C'est le mois dernier que cette étude là a été lancée officiellement avec l'appui de la FAO pour permettre quand même de voir le niveau de dégâts de ces pesticides, de l'utilisation de ces pesticides-là dans
notre pays. D'accord. Ambroisine, même idée.
Oui, mais ça fait plusieurs fois que le plan national de mise en œuvre a été, de la Convention de Stockholm, a été actualisé. Et le problème, c'est que ce sont des polluants qui arrivent à affecter la nappe phréatique. Et cela agit directement sur l'organisme, et pas seulement sur les humains, mais tout ce qui nous entoure. Vous savez, ce que nous envoyons à la nature, elle nous renvoie ça sous diverses formes. Et c'est déplorable. Et il faut déjà commencer par voir sur le marché. Il y a certains produits qui sont exposés, même au niveau des feux tricolores, vous voyez ces produits-là, qui n'ont pratiquement pas de nom. Et sont des produits qu'on utilise pour tuer des insectes. Et en même temps, ces mêmes produits se retrouvent au niveau des maraîchers et qui les utilisent pour tuer les insectes, les larves et tout ça qui empêche les plantes de...
utilisé comme désherbant.
Oui. Comme désherbant. Donc, vraiment, c'est une lutte à faire à tous les niveaux. Je m'arrête.
Malheureusement, il faut le dire, chaque année, dans le monde entier, on dénombre 385 millions d'individus intoxiqués par l'utilisation de ces pesticides-là. Malheureusement, les compagnies qui fabriquent ces pesticides-là sont très puissantes et on n'arrive pas à mettre fin à leur production.
D'accord. Alors, non, je rebondis là où il a chuté. On a collé des procès à Monsanto que les gens ont gagné. C'est un problème d'organisation. Mais vous parlez d'une étude, c'est quel ministère qui a commencé?
Le ministère de l'Environnement.
De l'Environnement. Il faudrait associer le ministère
de l'Agriculture.
Bien
sûr.
Parce que c'est ce ministère-là qui serait le problème.
Tout à fait.
Avec les campagnes agricoles, vous voyez ce qu'ils font? Ils envoient des herbicides, des engrais, des semences. Aujourd'hui, quand vous allez auprès de nos cultivateurs, mais ce sont les herbicides, il n'y a plus de métiers.
C'est la dose aussi qu'ils ne maîtrisent pas.
Non, c'est pas c'est le même pas. Il faut plutôt utiliser les pesticides homologués.
Même pas des pesticides homologués. Mais tout ce qui est pesticides détruit toujours le sol.
Tout à fait.
Non, ça détruit le sol.
Oui, parce que aujourd'hui, on a
la matière première. Ce fait que l'on n'a plus des terres arables. À chaque fois, il faut ajouter de l'engrais. Oui. Si vous utilisez un kilogramme aujourd'hui, et cette saison, la saison prochaine, c'est 2 kilogrammes que vous devez utiliser. Et les sols meurent.
Ça tue même les vers de terre qui enrichissent.
Il faut revoir la politique agricole au Togo. Il faut revoir la politique agricole au Togo. Vivement que le ministère de l'Environnement puisse associer le ministère de l'Agriculture, sinon...
Et même celui de la Santé.
Oui, sinon, et puis serait une lutte vaine. Ce serait une lutte vaine.
Oui. Et puis trouver des palliatifs. Hein. On peut...
Oui, il y a des produits naturels.
Il y a des produits naturels. Permettez.
Oui, bien sûr.
Vous allez à l'ITRA, il y a des gens qui ont fait des études là-bas et qui ont
su des recherches.
Et vous allez aussi même à l'université du Bénin.
Les mettre à l'échelle. C'est ça qui est le problème.
Le mettre à l'échelle, il suffit seulement de s'organiser.
Alors.
Vous allez à l'agronomie, école d'agronomie, à l'université de Lomé, mais il y a des étudiants, font beaucoup de recherches, des études là-bas.
Aujourd'hui, il y a des projets qui aident quand même certaines populations à ne plus utiliser ces pesticides-là. Je regrette la fin de ce projet-là qu'on appelle PGICT, qui a beaucoup aidé nos agriculteurs dans les fins fonds de ce pays. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe avec le projet Waka Resip, qui essaie d'aider les populations à faire une couverture végétale de façon très archaïque, mais très efficace. On va même sur les berges où on plante des arbres qui nourrissent désormais les sols.
Vous
voyez tout ça, c'est des projets qu'il faut forcément perpétuer pour aider.
Il faut du financement.
Il y a plein d'initiatives.
Même des gens ont pu montrer qu'avec de l'urine naturelle, on peut fertiliser les sols. Oui. Moi, j'ai fait le tour avec UNICEF et sur beaucoup de plantations à l'intérieur du pays. Comment ils utilisent les fesses pour renforcer le sol? Comment ils utilisent l'urine pour renforcer le sol? Tout ça. Mais il faut des fonds et il faut arriver à mettre ces expériences à l'échelle. Il y a des jeunes qui développent des solutions. L'ITRA fait des recherches. Il y a des modes de culture que développe l'ITRA. Toutes ces choses-là, il faut des fonds pour les mettre à l'échelle, vulgariser à l'étendue du territoire pour que les gens ne s'empressent plus à aller utiliser l'engrais. Le problème, c'est que quand ils achètent l'engrais, ils ne prennent pas soin de respecter les doses.
Il ne fallait même pas encourager là.
Oui, ceux qui le font. Et c'est ça justement qui accélère la dégradation des sols, l'appauvrissement des sols. Donc,
il y a des plantes fertilisantes, oui, comme Jatropha, et que les gens utilisent.
Jatropha même n'existe plus comme ça. Ça pourrit, il ne se lance pas.
Isidore, vous terminez.
Oui, oui, il y a des initiatives. Vous prenez JVE.
Jeunesse,
jeune volontaire pour
l'environnement,
Inades formation.
Mais il y a des initiatives, il faut seulement les encourager. Or, derrière se cache des business.
C'est ce qu'elle disait, qu'il faut beaucoup de moyens pour vulgariser cela à l'échelle.
Non, le business, c'est que ce qui importe, c'est ces pesticides-là.
D'accord, merci à vous tous. C'est la pause commerciale.
Canal FM.
Nous sommes de retour. C'est l'étape fatidique réservée à nos auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 22 21 33 74 91 36 63 75. Pas encore d'auditeurs. 22 21 33 74 91 36 63 75. Alors, en attendant que les auditeurs nous joignent sur ces deux numéros, Eric Janson, toujours dans votre parution de ce jour. Ah, on me signale un auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
C'est monsieur Lali.
D'accord. Vous êtes en direct?
Je voulais un peu le promet de l'intervention de notre président, le Nigérien, là. Chez nous, on dit qu'il faut répondre à un compte à appeler. Tu pourrais améliorer ton alliance.
Allô? Ah, on vous écoute, il est parti. Allô? 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 Il est parti également. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. 22, 21, 33, 74. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur, bonjour. Monsieur, je salue tout le monde au plateau.
D'accord, c'est monsieur?
Bonjour. C'est Sylvain.
Monsieur Sylvain, on vous écoute.
Oui, franchement, l'information concernant Monseigneur Kouyro, ça fait froid au dos. Nous sommes des êtres humains, on n'est que passagers. Donc, il a fait sa part. Il faut que les autres aussi fassent leur part. Franchement, j'ai connu le monsieur en 94. Le prélat, il est de cœur. Il est de cœur, il a voulu sauver les Togolais, mais beaucoup ne l'ont pas compris. Et voilà, nous sommes là. Qui repose dans la paix du Seigneur. Franchement, ça fait froid au dos.
Paix à son âme.
Oui. Et pour Bazoum, le Niger.
Oui.
Je voudrais poser une question. Si Bazoum ne signe pas sa démission là, est-ce que la junte va le laisser partir? Moi, je pense que c'est ça qui pose le problème entre Bazoum et la junte.
D'accord.
Il faut qu'il accepte de signer sa démission. Est-ce que ça, c'est difficile à faire? La carotte est déjà cuite pour lui. Est-ce qu'il va chercher encore à être rétabli au palais? Il faut qu'il signe sa démission et puis on le laisse se reposer dans un endroit en France là-bas.
D'accord.
Oui, merci.
Merci, monsieur Sylvain.
Vous partez
allô? Allô? Allô?
Oui, c'est Magdi depuis l'entreprise de Lyon. C'est pour participer à l'émission.
D'accord, vous êtes en direct.
C'est concernant le problème de l'agriculture par rapport à l'utilisation des pesticides.
D'accord.
Moi, ce problème, quand je suis allé vers le nord même, j'ai eu à évoquer le problème. En temps même, sur le campus, on avait évoqué le problème. Ce que c'est quoi? J'entendais un de vos journalistes municipaux. Même avant, nous, on quittait le nord pour venir au sud ici faire les métiers dans les vacances pour pouvoir payer nos frais scolaires et nos cocoalas. Actuellement, quand tu reviens vers le nord, vers le sud ici, vers Montier, les palmiers, les consorts, là, il n'y a plus de métiers. Tout le monde sait que je suis là, un bidon, des herbicides, et c'est fini, le tout est joué. Vous allez vers le nord, quand vous dites là, tant que le problème est très clair. Quand les gens font cette utilisation, il y a certains herbes même qui poussaient, je vous assure, seulement les herbes ne poussent plus. Les papillons qu'on les voyait s'envoler, façon, les papillons n'existent plus. Certains fleuves non sont taris, bon, il n'y a pas de fleuves derrière. Il y a certains herbes même que vous n'allez même pas trouver de l'eau dans cette guerre dans le nord, juste dans le mois de janvier même. Avant fin janvier, tous les rivières sont arrivées. Parce que c'est quoi? L'utilisation de ces ont fait que l'eau ne coule. C'est-à-dire quand l'eau vient, ça coule, ça descend directement vers la mer, vers les grands fleuves, pour descendre vers la mer. Mmh. Ça vous montre, il faut que le ministre de l'Agriculture essaie de revenir un peu sur ça pour pouvoir sauver la population. Mmh. Sinon, les terres sont tellement inactivées, il n'y a rien, on fait tout, on s'en sort. Mmh. C'est ça qui fait que les jeunes filment dans les solaires.
D'accord. Merci à vous d'avoir appelé. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Je viens d'apprendre par vous la mort de Monseigneur
Madame
Ripalus, ici. Qui repose en paix.
Amen.
En cette paix tant voulue à pas tout être humain. Et puis voilà, seulement il y a eu un bémol en 2020 où le Togo s'est érigé contre un seul individu. Et ça, c'était anormal, qui n'a rien à voir dans tout ce qui se passe sur nous, quoi. Mais bon, vous avez parlé des poutistes, non?
Oui.
Les gens font des coups d'État et puis ils prennent en otage le président. Comment vous comprenez ce truc-là? Les coups d'État sont des crimes imprescriptibles dans toute constitution au monde, non? Mais comment se fait-il? Et puis les Africains, vous criez oyez pour tout ce désordre-là. L'Afrique est développée, selon vous, là, vous qui êtes là-bas, avec ces coups d'État permanents, partout. Ça déstabilise les pays. C'est pas normal. Et je voudrais vous demander, quand est-ce qu'on aura l'alternance au Togo? Il y en a besoin pour qu'on évolue. Il y en a besoin, grand besoin. Voilà.
D'accord.
Merci.
Merci, Madame Issy. 22, 21, 33, 74, 91, 36, allô. 63, 75. Allô?
Oui, bonjour, Canal FM.
Bonjour, c'est monsieur?
C'est monsieur Israël.
Monsieur Israël, vous êtes en direct.
Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour le Togo et en général. Et je tiens à saluer le président de la République Fort, sur son anniversaire, pour ses efforts qu'il essaie d'amener dans la sous-région. Fort, il est le libérateur de l'Afrique. Il demeure le président du Togo. Personne ne peut rien lui faire parce que c'est Dieu qui élit un président, ce n'est pas le peuple. Les gens peuvent, je ne sais pas comment d'autres peuvent le prendre, mais la volonté de Dieu, personne ne peut contre. Donc, tous ceux qui vont contre force sont fragnatrivés parce qu'il faut que nous sommes des hommes spirituels pour comprendre ce qui arrive à cette dernière temps. Force, c'est lui qui va délivrer l'Afrique. Et c'est lui qui va sauver les Congolais.
D'accord.
Personne ne peut pas le faire.
D'accord. Merci, monsieur Israël.
Et que Dieu vous accompagne.
Merci beaucoup. Bonne journée. Allô? Allô, je crois qu'il est parti. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Bonjour, papa Siviti.
Bonjour, mon fils est directeur partout où il sera, M. Sass Gao. Bon, condoléances les plus attristées au prélat. Quand il y a des faits, on dit que ses œuvres le suivent. Maintenant, s'agissant des coups d'État, vous parlez des coups d'État. Les coups d'État, pourquoi coups d'État? C'est parce que la gouvernance n'est pas ce que les gens veulent. Et vous qui n'avez pas de force, ceux qui l'ont, l'exercent. C'est nous qui disons que les coups d'État, quand vous êtes élu président, vous n'avez pas le droit de faire de votre peuple ce que vous voulez. C'est pourquoi coup d'État. La France, l'Europe, coup d'État, c'est parti. C'est pas Napoléon, Bonaparte, 18 primaires, De Gaulle, la France marche sur les principes des coups d'État, c'est la loi militaire que la France ça signe. Merci beaucoup.
D'accord, pour merci.
Ça va diriger.
Merci, papa Sibiti. Allô?
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. C'est monsieur?
Je suis à l'émission Canal FM.
Oui, vous êtes en direct. Vous êtes monsieur?
Allô?
Allô, votre nom, s'il vous plaît. Allô?
Allô?
Je crois qu'il ne nous entend pas. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, vous êtes en direct.
Oui, je voulais participer à l'émission, s'il vous plaît.
Oui, allez-y, on vous écoute.
S'il vous plaît, moi, c'est Barque.
Allô, oui.
J'appelle de la Balpedo.
Oui, on vous écoute, monsieur.
J'appelle d'Agbal Pedo, s'il vous plaît.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Ok. Moi, bon, la première des choses, nous devons présenter nos condoléances au prélat. Mm. Le décès de notre père, grand-père Poyo. Mm. Maintenant, le deuxième problème, c'est par rapport à la NARC qui mine la société de télécommunications. Oui. S'il faut vraiment venir, vous avez parlé d'un numéro qui envoie des messages, qui en a. Mm. Pourtant, Togocom ou Togo Telecom nous avait fait enregistrer ou bien nous avait fait énumérer. Chacun a un numéro, ou bien au plus trois.
Des identifications.
Mais depuis ce bout de temps, il y a ces histoires-là. Et depuis ce temps, on n'a jamais mis la main sur quelqu'un. Or, s'il n'y a pas, je ne sais pas s'il n'y a pas les bureaux de télécommunication ou je sais pas, le service de télécommunication, ces hommes-là ne peuvent pas le faire. Moi, je me dis que c'est par là que ça passe pour anarquer la population. Donc, ils n'ont rien, ils n'ont pas de solution pour pouvoir mettre la main sur une seule personne, peut-être qui peut peut-être dénoncer les autres. Comment ils arrivent Comment ils arrivent à anarquer? On a nos numéros. On nous dit que c'est un numéro confidentiel, un code secret. Et cela arrive à découvrir nos codes et à nous vider de nos biens. Mmh. Et depuis ce temps, rien. La CEP, comme vous venez de dire, ne dit rien. Togoukou même ne sait jamais prononcer là-dessus. Mmh. Et quand ces choses arrivent, vous ne convoquez même pas un agent de Togoukou pour nous expliquer comment ça se passe et bien qu'est-ce qu'ils font.
D'accord.
Pour
merci.
Nous sauver de cette situation.
D'accord, merci. On vous a entendu. Allô?
Allô, oui, pardon, bon. Je reviens.
Ah, d'accord.
Le général de Gaulle, c'est par un coup d'État qu'il a dirigé la France et les Français ont toujours applaudi. Donc, que les présidents dites démocratiquement élus ne doivent pas exercer comme ils veulent. Ils doivent faire la volonté du peuple. Merci beaucoup.
D'accord, merci à vous. Allô, pas encore d'auditeurs. Nous rappelons rapidement les deux numéros, 22-21-33-74. 91-36-63-75, 22-21-33-74, 91-36-63-75. Toujours pas d'auditeur. Alors, oui, pas d'auditeur. Alors, nous allons revenir ici, peut-être même mettre fin aux appels de ce matin. Je reviens à vous, Eric Johnson, avant d'ouvrir la ligne aux auditeurs. Nous parlions d'un article dans le journal L'Union de ce jour, l'application de la convention collective. Et vous titrez « Médias privés, l'application de la collection de la convention collective en question ». Dites-nous-en.
En fait, il s'est agi d'une réunion organisée par le ministère de la communication et des médias, justement parce que il y a un moratoire d'un an qui avait été donné aux organes de presse privés pour que la convention collective signée entre les syndicats des journalistes et le patronat de la presse privée, que cette convention-là soit exécutée. Mmh. Malheureusement, au cours de cette réunion, le patronat a signifié qu'il y a des difficultés et que la mise en application de cette convention collective pose problème. Alors les syndicats des journalistes ne l'entendent pas de cette oreille-là et veut que tout de suite que cette convention-là soit appliquée. Et donc les discussions vont continuer entre les différentes parties. Mmh. Et je crois que ceux qui ont signé cette convention-là...
Il aura la parole tout à l'heure.
En tant que président du patronat de la presse, ils y auraient là pour peut-être dire un mot là-dessus. Parce que, évidemment, nous, en tant que promoteurs de la presse privée, on a énormément de difficultés et ça agit sur toute la corporation. Mmh. Et donc, nous en appelons quand même aux autorités pour qu'elles essaient de mettre aussi, de porter aussi un peu plus haut l'aide de l'État à la presse et de mettre en application le fonds d'aide, le fonds d'appui à la presse pour permettre quand même aux structures privées de s'en sortir. Mmh. Et là, je pense que personne n'aura plus d'excuses pour ne pas appliquer cette convention collective.
D'accord, merci. Nous en avons parlé vendredi, mais ce n'est jamais de trop. Isidore Aklor.
Ah oui, c'est dommage. C'est le vendredi que j'ai appris qu'il y avait eu cette rencontre, je n'y étais pas été invité. Sinon, je suis parti. Des gens qui ont discuté de bout en bout cette convention. Et pour la petite histoire, la convention collective fait partie des recommandations des états généraux de la presse à Kwaliné. Mmh. Et au rang desquels se trouve aussi l'augmentation de l'aide de l'État à la presse,
ouais,
à 800 millions.
Ouais.
Vous vous souvenez?
Mmh. Ouais.
Et on avait posé ces préalables que, bon, si on peut augmenter l'aide de l'État à la presse, ça va soulager tant soit peu les promoteurs des médias. Mmh. Et il y a d'autres
préalables.
Non, pas préalables, des mesures d'accompagnement.
Mmh. Ok, d'accord.
Que nous avons au niveau, que ce soit le CONAP, le PPT, l'URATEL, et ATOPEL, OPEL, tous, on avait soumis une doléance au ministre et à Iwadan, qui a dit que bon, il y aura des mesures d'accompagnement. Mmh. Vous vous souvenez que le PPT n'avait pas signé dès le premier jour, le jour de la signature. Le PPT a refusé. Maintenant, j'ai dit que non. Mmh. Si le ministre ne s'engage pas à signer, moi, je ne vais pas signer, puisque c'est un engagement. Mmh. Donc, voilà nous, là où nous en sommes. Aujourd'hui, le ministre, on peut nous dire que bon, le ministre n'a pas signé. Et j'avais dit le jour-là, à défaut de la signature du ministre, que ce soit le secrétaire général ou le décès.
Mais du ministère.
J'ai pas été compris. Aujourd'hui, nous en sommes là.
Mmh. D'accord.
Aujourd'hui, tel que les choses se passent avec la crise économique, hein, et les journaux ne se vendent pas. Mais où est-ce qu'on va trouver
les moyens
pour assurer 260 000 pour quelqu'un qui a la licence? Mais est-ce que les promoteurs même ont ces moyens-là? Il faut se poser la question. Nous sommes dans un environnement économique et très morose.
Oui.
Et bon, je ne sais pas comment on va faire. Je ne suis plus aux affaires. Mm. Ceux qui sont aux affaires n'ont qu'à le faire. Bon.
D'accord. Ambroise Nomédé, les textes sont là, mais c'est l'application qui pose problème.
Oui, l'application pose problème. Et nous avons des problèmes. Mmh. Nous avons des problèmes. Et il n'y a pas ce responsable de médias qui va dire aujourd'hui que lui, il arrive à payer normalement les salaires, fait face aux charges fixes de façon générale. Mmh. Nous sommes dans un contexte où il n'y a pas d'insertion. Il n'y a pas d'insertion. Et les insertions que vous avez sont des sociétés qui sont plus connues que les médias, même chargés de les faire connaître. Et donc, c'est assez difficile, et vraiment difficile, un marché restreint, encombré, une concurrence où on fait des efforts de professionnalisme déjà assez difficile à tenir. Et donc, face à tout cela, récemment, on a eu le SMIC qui a été revu à la hausse. Et donc, c'est vraiment compliqué.
C'est compliqué. D'accord, nous tirons,
compliqué.
Oui,
ultra compliqué. Mais
nous tirons vers la fin de cette émission.
Je peux ajouter que cette convention doit être encore revue parce que la grille salariale qu'on avait eu à faire à l'époque, c'était sur les 35 000.
D'accord.
Tout sur l'ancien SMIC.
L'ancien SMIC. D'accord.
Il y a beaucoup de choses, les préalables à faire avant de mettre. Et le directeur des lois sociales nous a dit que bon, ça peut se faire par à-coup.
D'accord. Nous sommes arrivés.
Le moratoire dont on parle là n'est pas imposable à tout le monde.
D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons vous donner la possibilité de donner des cartons si vous en avez. Eric Johnson.
Alors, moi, je. C'est pas. Un carton, mais je vais aussi plaider la cause de la justice togolaise. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée en 2013 pour l'aide juridictionnelle, pour pouvoir aider les compatriotes qui n'ont pas de moyens pour prendre des avocats, où on va leur la justice même va leur donner des avocats, mais il faut que ces avocats-là soient aussi payés. Et donc, cette aide juridictionnelle-là, depuis 10 ans, ne trouve pas encore de décret pour être mise en application.
D'accord.
Et donc, je plaide pour que ce décret-là, après 10 ans quand même, soit signé, soit établi, pour que cette aide juridictionnelle-là soit effective, afin de soulager les justiciables que nous sommes tous avec cette crise-là, où nous ne pourrons pas payer logiquement ou normalement les avocats.
D'accord. Isidore Akolor, carton.
Non, pas de carton aujourd'hui, pas de carton.
D'accord. Merci. Ambroisine Memédé.
Pas de carton, mais je vais appeler les parents à beaucoup plus prendre soin des enfants. Nous traversons une période un peu chaude, boire de l'eau, assurer l'hygiène, la propreté des enfants. Je finirai par un petit coucou aux enfants atteints de cancer qui sont pris en charge au CHU CHU Sylvanus Olympio pour leur dire une bonne année. Qu'il y ait beaucoup d'améliorations dans le traitement et faire un coucou également aux médecins qui se battent chaque jour pour l'amélioration de leur santé. Nous sommes là en tant que médias pour relayer les informations utiles aux populations en le cas de cette maladie-là.
D'accord. Merci à vous, Ambroisine Memédé de l'agence de presse Savard News, Eric Johnson du journal L'Union et Isidore Akolor du journal Actu Express. C'est donc fini pour aujourd'hui. La technique a été assurée par Michel Tomega. Mise en ligne, Jérôme Akoucha. Je suis Fousséni Saïbou. À très bientôt.